Bonjour. Il était atteint du coronavirus. L'ancien ministre Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est mort la nuit dernière à l'hôpital où pourtant il disait, il y a deux jours encore, aller mieux. Ancien maire d'Antony, ancien secrétaire général de l'UMP, Patrick Devedjian avait 75 ans. Les hommages se sont multipliés toute la matinée de tous bords. Invité de ce journal, la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse. Avec elle, nous reviendrons aussi, bien sûr, sur la façon dont la région capitale fait face à l'épidémie et comment elle se prépare à l'après-confinement. Le coronavirus qui a fait aussi sa première victime parmi les gardiens de prison à Orléans. Pendant que dans le Grand Est, les transferts des patients malades se multiplient en direction notamment du Sud-Ouest. 36 malades ont été évacués ce matin par deux TGV partis de Nancy et de Mulhouse. Dans les EHPAD, on essaie de s'organiser au mieux après les annonces du ministre de la Santé hier qui leur demande de privilégier l'isolement individuel de leurs pensionnaires. On en parle dans un instant avec la directrice d'un établissement d'accueil pour les personnes âgées dans le Rhône. Et puis comment éviter d'ajouter au drame sanitaire un drame social? Le gouvernement espagnol va plus loin que tous ses voisins en interdisant carrément les licenciements. Nouvelle édition spéciale consacrée donc au coronavirus jusqu'à 13h30.
France Inter.
Il avait été diagnostiqué positif au Covid-19 et hospitalisé. L'ancien ministre Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est mort la nuit dernière. Il avait 75 ans. Il y a trois jours encore, il disait dans un tweet être en train de remonter la pente. Élodie Forest, c'est le département des Hauts-de-Seine auquel il a consacré toute sa carrière qui a ce matin annoncé la nouvelle.
Oui, dans un communiqué où est retracée la carrière de cette figure inclassable de la droite, anticommuniste résolue, membre d'un groupe activiste d'extrême droite dans sa jeunesse, qui fut l'un des rédacteurs des statuts du RPR, porte-parole plus tard de l'UMP, ministre dans les gouvernements Raffarin puis Fillon. Patrick Devedjian, attaché viscéralement aux Hauts-de-Seine, département qu'il dirigeait depuis 2007, où il fut également député et maire de la ville d'Antony, prise aux communistes en 1983. Patrick Devedjian, élu maire en même temps que Nicolas Sarkozy, une vingtaine de kilomètres plus loin à Neuilly. Entre les deux hommes, ce sera 30 années de « je t'aime moi non plus », unis dans certaines batailles comme la campagne d'Édouard Balladur en 95, désunis à d'autres moments comme en 2007. Patrick Devedjian n'est pas nommé ministre et aura cette phrase piquante « je suis pour aller très loin dans l'ouverture jusqu'aux sarkozystes ». Devedjian, un homme à part, extrêmement cultivé, extrêmement cassant aussi donc. « Je suis amené à nettoyer les écuries d'Augias », disait-il en 2008 en parlant de son département auquel il voulait redonner bonne réputation. Patrick Devedjian a un esprit libre, homme de conviction, infatigable combattant pour la reconnaissance du génocide arménien, salué aujourd'hui par toute une classe politique.
Élodie Forest, premier à régir ce matin, le président du Sénat, Gérard Larcher, salue un homme courageux, totalement dévoué à sa ville, Antony, et au département des Hauts-de-Seine. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, pareillement. Jean-Pierre Raffarin également rend hommage au ministre qui a fait honneur à sa fonction. Xavier Bertrand, Rachida Dati salue l'esprit brillant, l'élu dévoué et empathique, doté d'un grand sens de l'État. Sa parole manquera, souligne également le socialiste Pierre Moscovici. La maire de Paris, Anne Hidalgo, adresse ses pensées aux Arméniens qui perdent un de leurs frères. Bref, des hommages venus de toutes parts. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Présidente de la région Île-de-France, des hommages auxquels bien sûr vous vous associez.
Bien évidemment, vous savez, j'ai été bouleversée quand j'ai appris dans la nuit la nouvelle. Patrick et moi, c'était 20 ans d'amitié, c'était 20 ans de combat partagé. Et vraiment, oui, c'est une personnalité, ça a été dit, tout à fait originale dans la vie politique, tout à fait exceptionnelle par son histoire personnelle, par ses convictions très fortes. Vous savez, c'était un des hommes de droite qui avait le plus au cœur la question des migrants, par exemple, parce que lui-même était d'une origine arménienne et donc savait ce que c'était qu'une famille déplacée, une famille qui doit se réenraciner en France. Il avait la passion de la France, la passion de l'Arménie, et il avait ce regard très humain sur tous les Français, quelle que soit leur origine.
Alors on se souvient, Élodie Forest l'a rappelé, pendant l'ouverture politique qu'a voulu pratiquer Nicolas Sarkozy, on se souvient de son amertume. Hein. Il avait dit que l'ouverture pourrait peut-être aller jusqu'à la droite, jusqu'à l'UMP. La preuve qu'il avait des convictions et en même temps une parole très libre.
Il avait un sens de l'humour extrêmement féroce, il avait un sens de la formule, c'était un avocat, Patrick, il a commencé comme ça, il était avocat et extrêmement flamboyant et extrêmement un très très bon orateur. Et donc effectivement, quelquefois, il avait la pique vengeresse. Mais d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a fini par le nommer ministre de la Relance au lendemain de la crise de 2008, ce qui était un poste évidemment stratégique.
Alors sa mort, la première qui frappe un responsable politique, c'est bien sûr une nouvelle illustration du drame que vivent de nombreuses familles, hein. Illustration aussi de la gravité de la situation. À votre connaissance, quelle est la situation aujourd'hui dans les hôpitaux d'Île-de-France, dont on dit qu'ils sont au bord de la saturation ?
Alors d'abord, si je peux me permettre de vous reprendre, il y a de très nombreux élus qui sont aujourd'hui hospitalisés. Parce que les élus dans toute la France font partie de ces personnes, ces Français qui sont au contact en permanence et qui sont au front contre l'épidémie. Beaucoup de maires aujourd'hui organisent dans leur commune tous les services de proximité. Et donc, il n'y a pas de confinement pour un grand nombre d'élus, et donc il y a des risques effectivement aussi pour eux, donc je voudrais les associer vraiment à mes pensées qui vont à la famille de Patrick Devedjian. Mais pour revenir sur votre question, évidemment la situation est grave en Île-de-France, nous rentrons dans l'œil du cyclone, et nous y rentrons pour une durée que nous ne connaissons pas. Donc moi j'appelle vraiment à la mobilisation générale de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies. Nous avons rappelé à l'hôpital tous les professionnels de santé qui n'exercent pas aujourd'hui ni en ville ni à l'hôpital. Je pense à tous les médecins salariés, je pense à tous les étudiants en médecine, des étudiants infirmiers, je pense aux jeunes retraités qui n'auraient pas de problème de santé. Et nous les attendons à l'hôpital parce que aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux d'Île-de-France sont soumis à rude épreuve. Nous avons triplé nos capacités de réanimation. Aujourd'hui, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire qui se met en place, c'est cette solidarité entre l'hôpital public et l'hôpital privé. On les disait souvent rivaux, là, ils sont la main dans la main.
On va en parler dans un instant, oui.
Voilà. Mmh. Mais nous, la région, nous avons mis en place un fonds de 18 millions d'euros pour aider les étudiants infirmiers qui voudraient, on en a 10 000 qui sont confinés chez eux aujourd'hui, qui voudraient rejoindre les hôpitaux, et moi je les appelle vraiment à venir.
Alors Valérie Pécresse, un mot sur l'après-confinement. Comment se prépare-t-il à Paris, hein, à l'image peut-être de ce qu'on commence à voir en Chine, hein, on a la chance d'avoir un décalage dans le temps et de bénéficier de l'expérience des autres. Alors que faut-il déjà prévoir à Paris et dans la région ?
Oui, écoutez, vous savez, on en est encore vraiment loin. Pour l'instant, notre priorité, c'est vraiment de faire fonctionner le système de soins. Et c'est aussi, et ça peut nous aider à préparer l'après-confinement, c'est aussi avec tout le tissu économique, je pense à toutes les PME, je pense à toutes les start-up, notamment ici en Île-de-France, à essayer de transformer notre outil de production pour pouvoir participer à cet effort de lutte contre la pandémie. Nous avons beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se mettent à produire du gel hydroalcoolique, se mettent à fabriquer des masques, des respirateurs, des visières. Et finalement, je crois que nous avons laissé se délocaliser un certain nombre des fonctions essentielles du pays, un certain nombre de fonctions de production. Nous avons cru à la mondialisation, nous avons cru que finalement, on n'était pas obligé d'avoir chez soi ces productions essentielles. Les médicaments, aujourd'hui, nous risquons une pénurie de certains médicaments. Donc on voit bien qu'on doit changer complètement nos modes de production, relocaliser ces productions. Et la région se mobilise pour donner des aides de 500 000 euros à toutes les PME qui voudraient acheter des nouvelles machines pour participer à ces nouvelles productions qui sont essentielles pour la lutte contre la maladie. C'est une première, une première étape, mais après, il faudra évidemment relocaliser toute une série de productions qui aujourd'hui nous font malheureusement singulièrement défaut.
Et on n'en est pas là, bien sûr. Merci beaucoup Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Merci. À noter à l'instant la réaction de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui salue le panache de son ancien ministre. Homme passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l'aime, écrit Nicolas Sarkozy, avec des sentiments et des convictions. Et puis des membres du gouvernement également rendent hommage à Patrick Devedjian, Bruno Le Maire ou Jean-Michel Blanquer qui salue la culture et le franc-parler qu'il avait mis au service de son pays, écrit Jean-Michel Blanquer, un homme de caractère et de conviction. Salue également Bruno Le Maire. Dans ses derniers tweets, on l'a dit, Patrick Devedjian, se disant fatigué mais stabilisé, saluait le travail des soignants, grâce auquel, écrivait-il, il était en train de remonter la pente. C'est la particularité de cette infection au Covid-19 dont témoignent beaucoup de malades. Un jour presque d'aplomb et le lendemain de nouveau au plus mal. Véronique Julia, c'est ce que les spécialistes appellent le plongeon, quand tout peut basculer en 24 heures.
C'est un phénomène qu'on n'avait pas observé pour d'autres coronavirus comme le SRAS ou le MERS. Dans ces deux cas, les symptômes devenaient tout de suite gravissimes. Avec le Covid, on peut avoir des symptômes même légers pendant quelques jours, puis aller beaucoup mieux. Une aggravation peut ensuite survenir en quelques heures avec des atteintes sur plusieurs organes. L'aggravation arrive en général au début de la deuxième, voire de la troisième semaine après les premiers signes de la maladie. Une réaction explosive liée à une réponse immunitaire exagérée de l'organisme. En gros, nos défenses surréagissent. Le professeur Djilali Annan est chef du service de réanimation à l'hôpital de Garches.
Très clairement, ça n'est plus le virus lui-même qui cause les dégâts, mais c'est bien la réponse exagérée de l'organisme, la réponse inflammatoire qui va engendrer des dégâts au niveau pulmonaire, mais aussi des autres organes comme le cœur et le rein, qui peut aller jusqu'à la nécrose de ces tissus. Malheureusement, certains ne s'en relèvent pas et dans ces formes très graves, la mortalité sera probablement autour de 30-35%.
Le phénomène s'observe de façon spectaculaire chez des jeunes, bonne santé, sans doute parce que leur système immunitaire est très performant, donc susceptible de surréagir. Mais cette dérégulation immunitaire peut arriver à tous les âges. Elle pourrait, mais ce n'est qu'une hypothèse, s'expliquer par des prédispositions génétiques.
Véronique Julia, le coronavirus qui vient aussi de faire sa première victime chez les gardiens de prison à Orléans. Un homme de 54 ans décédé cette semaine d'une crise cardiaque. Ses proches avaient demandé un test post-mortem dont la conclusion ne laisse aucun doute. Il était infecté par le Covid-19. Patricia Pourrez.
Au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, la nouvelle risque de créer une onde de choc. Le surveillant, décédé cette semaine, était bien atteint par le coronavirus. En arrêt de travail depuis quelques jours pour une toux et de la fièvre, il a succombé mercredi dernier à un arrêt cardiaque après une embolie pulmonaire. Les pompiers et le SAMU appelés chez lui n'ont pas réussi à le réanimer. Très vite, sa famille a commencé à avoir des doutes. Elle a même alerté France Bleu Orléans pour préciser que l'homme était en bonne santé et sans aucun facteur à risque. Le parquet d'Orléans a finalement ouvert une enquête. Des prélèvements ont été réalisés sur le corps du défunt à l'hôpital d'Orléans. Les résultats confirment les doutes. L'agent de la pénitentiaire était bien infecté. On ne sait pas pour l'instant si ses proches envisagent des suites judiciaires.
À noter que deux détenus de cette même prison d'Orléans-Saran ont été testés positifs et qu'ils sont confinés dans des cellules à part.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
Face à l'épidémie, la priorité en France, comme partout, c'est d'éviter la saturation des hôpitaux en multipliant, comme le ministre de la Santé l'a de nouveau expliqué hier soir, les places de réanimation. Jusqu'à 14 000 places devraient être trouvées à terme dans les hôpitaux. C'est aussi le sens du confinement imposé à la population et des transferts qui se multiplient du Grand Est vers l'Allemagne et surtout vers les régions moins touchées pour l'instant. Ce matin, c'est en TGV que 36 patients ont été évacués de Nancy et de Mulhouse vers Bordeaux et autres établissements de Nouvelle-Aquitaine. Valentin Dunat était au départ à la gare de Mulhouse.
Le balai des ambulances a commencé dès 6h, d'abord pour déposer le matériel médical très lourd et ensuite opérer le transfert de ces 12 patients qui viennent des hôpitaux de Mulhouse et de Colmar. C'est dire la saturation de ces hôpitaux et plus particulièrement celui de Mulhouse qui depuis le début de la semaine a en plus vu sa capacité augmenter avec l'hôpital militaire installé sur son parking. Ce train doit rejoindre Poitiers dans l'après-midi. Les patients qui sont tous en réanimation seront ensuite envoyés dans les différents centres hospitaliers du département, Poitiers, mais également La Rochelle, Niort et Angoulême. Chaque voiture de ce TGV compte 4 patients avec pour chaque compartiment un médecin anesthésiste réanimateur. C'est la deuxième fois depuis le début de la crise qu'un TGV médicalisé est mis en place. Jeudi, 20 malades avaient été transférés de la gare de Strasbourg. Par ailleurs, une troisième évacuation est également organisée aujourd'hui à Nancy avec 24 patients en réanimation qui sont eux accueillis dans le sud-ouest de la France, Bordeaux, Libourne, Pau et Bayonne.
Valentin Dunat, et puis ce sont trois transferts par hélicoptère qui ont été effectués par l'armée française hier pour soulager les hôpitaux du Grand Est. 6 patients évacués vers l'Allemagne, la Suisse et l'Auvergne. Répartir les malades au mieux implique aussi la mobilisation des établissements privés qui sont prêts à venir en soutien au public. Dans les Hauts-de-France, par exemple, 32 patients ont été dirigés vers le privé qui a lui aussi réorganisé ses services pour augmenter ses capacités d'accueil. Sous la houlette de l'Agence régionale de santé, publique et privée se parlent et coopèrent sans problème. Bénédicte Robin.
Le partenariat et la complémentarité publique-privée qui est en train de se construire, c'est vrai, c'est nouveau.
Mais tout est nouveau depuis 10 jours, j'ai envie de vous dire.
Admet François Gutt.
Parce que la situation est exceptionnelle et la situation est nouvelle.
Le directeur du pôle lillois du groupe Ramsay Santé qui regroupe 10 hôpitaux privés de la métropole qui ont donc dû s'adapter.
Depuis le vendredi 13 mars, on a déprogrammé toutes nos activités en conservant uniquement les urgences et les prises en charge en cancérologie.
Pour faire de la place, ouvrir des lits de réanimation ou de soins critiques afin de décharger l'hôpital public.
Donc on a créé, entre autres sur l'hôpital privé Le Bois depuis maintenant près d'une semaine, 10 lits de réanimation supplémentaires qui sont pleins de patients. Alors pour l'instant, qui ne sont pas Covid, c'est-à-dire que l'hôpital va essayer de concentrer tous les patients Covid et nous, on les aide. Ils se délestent sur nous de tous les patients réanimatoires qui ne sont pas Covid.
Mais ils s'attendent très certainement à en recevoir dans les prochains jours et en attendant, les soignants ont fait quelques remises à niveau.
Des soignants qui, dans certains services, n'ont pas fait de réanimation depuis fort longtemps, se forment, se reforment. Donc voilà, on a fait tout pour se préparer. Ce que je peux vous dire, c'est que les collaborations sont effectives et on fait tout pour qu'elles soient efficaces.
Avec toujours cette question des masques, les stocks actuels leur permettraient de tenir une semaine au mieux.
Le combat ne fait que commencer, a dit et répété le Premier ministre hier en annonçant 15 jours plus difficiles encore que les précédents. Tout est fait, on l'a vu, pour multiplier les places en réanimation. 1 milliard de masques ont été commandés, notamment à la Chine, on va y revenir. Les tests seront également multipliés. On aura aussi retenu dans les annonces faites également par le ministre de la Santé l'attention particulière portée aux EHPAD, invités à privilégier l'isolement individuel de leurs pensionnaires et même à confiner, si possible, les personnels. C'est ce dont on va parler maintenant avec vous, Corinne Duverget, bonjour.
Bonjour Maître Decamp.
Vous êtes la directrice d'une maison de retraite associative et non lucrative dans le Rhône. C'est oui. Une décision difficile à prendre, disait hier soir Olivier Véran, difficile à appliquer aussi, j'imagine.
Alors, c'est une décision qui pour nous a été prise dans l'établissement depuis à peu près 10-12 jours. Nous avons mis en place les repas en chambre, nous avons suspendu les ateliers du PASA, du pôle d'activité et de soins adaptés, et nous avons suspendu les animations de groupe. Reste en place des animations individuelles. Nous essayons de maintenir le lien si important avec les familles par voie de Skype ou de photos, par voie de mail. Nous avons renforcé les équipes pour permettre ces repas en chambre et aussi améliorer le quotidien de nos résidents avec des promenades individuelles avec nos soignants ou notre animateur. Mais la sécurité imposait depuis déjà 10-12 jours d'en passer par là.
Mais c'est ce dont les personnes âgées souffrent souvent le plus, l'isolement. Et là, il est encore renforcé.
Il est encore renforcé. Après, je vous dis, nous avons mis en place des petites choses. Skype, les animations individuelles, des échanges mails avec les familles qui sont quand même appréciés. On a des remerciements des familles. Il y a quelques moments de bonheur. Des soignants font les coiffures de nos résidentes. Ça permet quelques moments de bonheur volés par-ci, par-là, dans cette période extrêmement difficile d'isolement, effectivement.
Alors justement, les soignants, le ministre de la Santé a demandé qu'ils soient au maximum confinés, en tout cas qu'ils évitent les allers-retours, les sorties. Est-ce que c'est vraiment envisageable matériellement et psychologiquement ?
Alors, c'est très compliqué à mettre en place. Nos soignants ont aussi besoin de voir leur famille, de s'oxygéner. Ce que nous avons imaginé, par contre, c'est de sectoriser notamment. Alors, nous avons la chance immense dans notre établissement à ce jour de ne pas avoir de cas de Covid. Mais nous avons essayé d'imaginer avec le médecin d'isoler un secteur. Si des cas devaient être confirmés, de transférer les patients dans ce secteur, de pouvoir un peu sectoriser et les soignants et les résidents. Néanmoins, c'est très difficile. Je vous rappelle qu'ils ont leur propre mobilier dans leur chambre. C'est pas de l'hôpital, c'est leur lieu de vie. Donc c'est extrêmement complexe. Ça nous demande également forcément pour permettre d'anticiper ce moment-là, de garder, pour l'instant nous avons gardé 2 chambres disponibles pour permettre ces transferts de résidents sur un secteur donné. Et ces 2 chambres que nous gardons de disponibles font que nous manquons, entre guillemets, à notre mission de santé publique qui serait de recevoir des résidents de l'hôpital pour soulager l'hôpital. Alors nous le faisons quand même, mais oui. Du coup, moins que possible.
La vraie solution, ce serait bien sûr les masques FFP2 qui permettent de rester en contact, mais là, vous en manquez ?
Alors, non seulement nous en manquons, nous n'en avons pas du tout, monsieur. Nous n'en avons pas. Nous avons 5 pauvres paires de lunettes. Les visières de l'espoir que vous connaissez peut-être vont tenter de nous approvisionner sur 20 ou 30 visières pour nous aider.
C'est une association, oui.
Oui, voilà, qui fabrique ces visières
en 3D.
Pour les soignants, pour les hôpitaux. Et donc, j'espère que notre EHPAD en sera pourvu. En tout cas, je remercie toutes ces bonnes volontés. Nous manquons également de surblouses à manches longues et cruellement de tests. Sachez que les EHPAD ont 2 tests en tout et pour tout pour leurs résidents et 1 test pour leurs salariés. Malgré le soutien, je tiens à le dire, de l'ARS Rhône-Alpes, nous manquons cruellement de matériel.
Voilà, à suivre donc, si l'on a bien entendu le ministre de la Santé hier soir. Merci beaucoup Corinne Duverger, directrice d'une maison de retraite associative non lucrative dans le Rhône. Merci. Si le temps n'est pas venu des polémiques pour beaucoup de responsables politiques, tout le monde n'est pas de cet avis. Une trentaine de militants et candidats Les Républicains au municipal à Marseille ont décidé de porter plainte contre le gouvernement, contre Édouard Philippe et Christophe Castaner. Castaner, en l'occurrence, coupable à leurs yeux d'avoir maintenu le premier tour des élections. Plainte sera donc déposée devant la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. L'avocat des plaignants, Maître Boudy, au téléphone de Sophie Parmentier.
Les plaignants considèrent qu'en maintenant le premier tour des élections municipales, le gouvernement français, donc par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur, qui lui était en charge de valider ou de suspendre les élections, les a exposés à un risque extrêmement dangereux. Et surtout, ce risque était réel, puisque le confinement a été prononcé le lendemain du premier tour. Par conséquent, le gouvernement français, en tout cas les ministres compétents, étaient parfaitement informés du caractère dangereux de ce virus et de sa propagation. Donc c'est précisément ce qui est reproché aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, c'est d'avoir maintenu le premier tour d'élection municipale en connaissance de cause.
Voilà, les plaintes et les référés se multiplient ces derniers jours, comme également les trafics en tout genre. De nombreuses enquêtes ont été initiées déjà pour infraction sur la vente de masques ou de gel hydroalcoolique à Champigny-sur-Marne. C'est un ingénieur salarié d'un hôpital privé qui doit être mis en examen pour trafic de respirateurs artificiels. Il revendait le matériel sur le Bon Coin, Emmanuel Leclerc.
Pour le parquet de Créteil, c'est la 2e information judiciaire ouverte en lien avec cette crise du coronavirus et ceux qui tentent d'en profiter de manière crapuleuse. Là, c'est pour l'appartenance présumée à un trafic de respirateurs artificiels. Mais au début du mois, la première instruction concernait un trafic de masques périmés. 3 jeunes malfaiteurs surpris en flagrant délit à Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Les enquêteurs cherchent toujours à coincer le ou les fournisseurs des personnes ayant racheté un stock de masques d'une entreprise qui aurait pu faire faillite il y a déjà quelques années. C'est l'une des hypothèses d'enquête. Les escroqueries et les trafics en temps de guerre sanitaire touchent également les pharmacies, on le sait, Paris, Marseille et cette semaine encore à Nice, avec la comparution immédiate de cette pharmacienne qui, comme d'autres, interpellée ces 3 dernières semaines, vendait sous le manteau à ses clients des masques destinés au personnel soignant. Cette pharmacienne niçoise a reconnu au passage qu'elle fabriquait aussi du gel hydroalcoolique frelaté, réalisé en partie avec du gel qui sert pour les échographies. Pour vous donner une idée du phénomène, rien que sur Paris, ce sont 14 enquêtes qui ont été déclenchées pour des infractions sur la vente de masques ou de gel. Et encore, ça, ce sont pour les histoires les plus graves, quand il y a un danger sur la qualité des produits ou qu'il y avait des quantités astronomiques de masques écoulés.
Emmanuel Leclerc, parmi les conséquences inattendues de cette crise sanitaire, un mot des journaux, des quotidiens, dont beaucoup d'abonnés sont livrés par La Poste. La Poste qui réduit ses tournées, désormais limitée à 3 passages du facteur par semaine. Résultat, pour ceux qui n'ont pas un service de portage à domicile, eh bien les nouvelles ne sont plus très fraîches et les éditeurs de presse sont perplexes, Maxime Deps.
Service minimum la semaine prochaine pour ceux qui reçoivent chaque jour le journal par la poste. Il leur faudra donc attendre mercredi pour avoir droit à leur lecture quotidienne. Un désagrément qui va concerner pour le groupe Centre France qui édite notamment La Montagne, pas moins de 70 000 lecteurs qu'on va abandonner selon la rédactrice en chef Sandrine Thomas.
Nos standards ont croulé sous les appels d'aînés qui ont appelé catastrophés. Certains même en pleurent en nous disant mais comment on va faire ? souvent le facteur de, c'est notre seule visite de la journée, notre petite fenêtre sur l'ailleurs. Je vous assure, on a recueilli au standard des personnes totalement désarmées.
Une pétition a été lancée vendredi sur Internet pour que la Poste revienne sur cette décision qualifiée d'unilatérale par les éditeurs de journaux, alors que les gens sont plus que jamais demandeurs d'informations claires et précises. La Poste ne joue pas le jeu pour Dominique Jung, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace.
Tous les jours, on publie une attestation que les gens peuvent découper pour aller faire leurs courses ou s'ils ont besoin d'aller chez le médecin. C'est très utile pour toute la population qui a peut-être Internet mais n'a pas d'imprimante nécessairement chez soi.
Contacter la Poste n'a pas souhaité réagir publiquement. Elle déplore bien sûr cette situation mais ne peut pas faire mieux. Les éditeurs de la presse quotidienne demandent pour leur part un minima que la livraison soit assurée. Un jour sur deux.
La Poste réduit ses tournées et l'aéroport d'Orly suspend ses activités. L'arrêté a été signé par le secrétaire d'État au transport à compter de mardi. Seuls seront autorisés à Orly les aéronefs d'État et les vols de secours médical. La France a commandé 1 milliard de masques, notamment à la Chine, a précisé hier soir le ministre de la Santé. Beaucoup d'autres pays ont fait de même. Des masques qu'il faut encore fabriquer et livrer, ce qui prendra du temps. Mais justement, comment la Chine peut-elle fournir tous les clients à la fois et surtout, comment choisit-elle ses priorités? Réponse à Shanghai avec Angélique Forget.
La Chine le sait, elle est en position de force, elle peut donc décider à qui donner la priorité. Et depuis le début, Pékin n'a pas hésité, elle a d'abord livré ce qu'elle considère comme ses alliés, l'Iran, le Pakistan, certains États africains, des pays membres du projet chinois des nouvelles routes de la soie, si chères au président Xi Jinping. Et puis dans un deuxième temps, ce sont les pays moins en phase avec la Chine qui peuvent être livrés, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni. Les masques deviennent alors un enjeu géopolitique, une monnaie d'échange. Et la Chine en profite pour redorer son blason, se montrer au chevet des pays malades, alors qu'elle a été critiquée au début de la crise pour sa gestion sanitaire. La France, qui vient d'établir un pont aérien avec la Chine, devrait recevoir au total 1 milliard de masques qu'elle achète. C'est beaucoup quand on sait que la Chine en produit 200 millions chaque jour. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'au début de l'épidémie, la Commission européenne avait livré 56 tonnes de matériel médical à la Chine. Angélique Forget, France Inter.
Le coronavirus qui continue ses ravages en Europe, continent le plus durement touché, avec plus des deux tiers des 30 000 morts recensés à ce jour. L'Italie a passé la barre des 10 000 victimes. L'Espagne dépasse ce matin les 6 500. Dans un pays qui peine à se remettre de la crise économique de 2008, le gouvernement de Pedro Sanchez veut éviter que ce drame sanitaire ne se double d'un drame social. D'où l'annonce d'un nouveau train de mesures de protection des salariés, et notamment l'interdiction de licencier, Marie-Pierre Vérot.
Interdit de licencier, pas question de profiter de cette crise du Covid-19 pour se séparer de ses employés. Une décision radicale portée vendredi dernier par la ministre du Travail du parti de gauche radical Podemos. Les syndicats avaient alerté sur le risque de voir 1 million de chômeurs supplémentaires en raison de la crise sanitaire. Ils ont donc été entendus. Mais le monde de l'entreprise reste plutôt dubitatif. Sylvia Hernandez dirige une entreprise de fabrication de chaussures qui emploie quelques 200 salariés dans la Rioja.
Nous devons appliquer les règles qu'ils nous fixent, mais je pense vraiment que le gouvernement doit nous tendre la main à nous, les entreprises, et dans tous les secteurs, parce que je ne sais pas comment le pays va se relever. Je pense que cette crise va durer et que les entreprises ne pourront supporter un tel poids.
Et la toute dernière décision de geler les activités économiques non essentielles à partir de ce lundi n'est guère de nature à la rassurer. Cette crise est une parenthèse, assure le gouvernement de Pedro Sanchez, certes, mais au-delà du drame humain, la facture économique s'annonce très lourde. Madrid, Laurent Macchetti, Marie-Pierre Vérot, France Inter.
Aucun pays n'échappe ou n'échappera bien sûr à cette épidémie, mais à choisir, chacun préfère passer cette période très particulière dans son pays d'origine, près des siens, ça se comprend, quand c'est possible bien entendu. Et c'est possible pour les joueurs du PSG, dont la plupart sont rentrés chez eux ou bien se sont offerts un séjour au vert, Jean-Pierre Blimou.
Les Sud-Américains Thiago Silva, Neymar ou Edinson Cavani sont partis très vite dans leur pays, après les mesures de confinement en France. Au Brésil pour les deux premiers, en Uruguay pour le troisième. Le gardien de but Keylor Navas a mis plus de temps, mais n'a pas lésiné sur les moyens pour rejoindre son Costa Rica natal ce week-end. Toute sa famille a embarqué hier sur un vol privé, dont le coût avoisinerait les 200 000 euros. Dans un premier temps, le directeur sportif du PSG, Leonardo, avait souhaité que les joueurs du club restent en région parisienne. C'est ce qu'ont d'ailleurs fait pour le moment le Brésilien Marquinhos, sous les Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria. Le club aurait quand même donné son aval pour le départ des autres, en contrepartie d'un programme à respecter pour se maintenir en forme. Neymar est parti avec un préparateur physique. Mais le problème, ce sont les photos postées sur les réseaux sociaux. On y voit le Brésilien étendu sur une plage avec ses amis. Le souci n'est pas de le voir se reposer après l'effort, mais de le voir donner le mauvais exemple. C'est ce que lui reprochent de nombreux internautes.
Bah, c'est qu'il pratique le football de plage également, Neymar. Allez, le confinement, oui, mais en musique. Pour ce week-end, le service culture de France Inter nous conseille le nouvel album du groupe Junior. Son deuxième album intitulé 1, 2, 3. Et pour cause, le groupe est maintenant un trio. Trois Français qui font d'ailleurs un carton outre-Manche, ce qui n'est pas si fréquent, Mathieu Culeron.
À la mare, j'en continuerai. Chacun pour soi.
Junior continue de peaufiner ses ritournelles dépouillées avec élégance. Des nouvelles chansons qui ont d'abord eu une vie en live et qui ont particulièrement touché le public anglo-saxon fan de musique des années 60. Anna, chanteuse, et Samy, bassiste, ont été les premiers surpris.
On a envie d'aller voir ailleurs, on a envie d'apporter cette musique ailleurs et on a fait les États-Unis, l'Angleterre, et enfin toute l'Europe en fait. Et l'Angleterre, c'est vrai qu'on y est retourné 6 ou 7 fois parce qu'on était bien accueillis.
Et ce qu'il y avait aussi d'assez rigolo, c'est que les gens qui venaient nous voir, qui nous parlaient de notre musique après, avaient des références beaucoup plus pointues que les Français sur la musique française des années 60. Ça m'a beaucoup étonné, ça.
Ah ben d'accord.
Ah ben d'accord est le premier single de ce nouveau disque, une expression qu'il a bien fallu traduire aux fans étrangers, et c'est Anna qui a trouvé l'explication parfaite.
Ah ben d'accord, c'est une contrariété très française, c'est-à-dire que c'est une contrariété qui n'est pas importante. Et j'ai trouvé ça assez joli, finalement, l'idée d'avoir une expression qui incarne assez bien l'esprit français. C'est qu'on est contrarié, mais on s'en fiche un peu quand même.
1, 2, 3 est un nouveau coup dans le mille pour Junior, une plongée vintage dans un univers pop moderne, un album qui rend addict, on vous aura prévu.
Deuxième album du groupe Junior. Dans un tout autre style, on a appris ce matin la mort du compositeur polonais Krzysztof Penderecki, dont beaucoup de réalisateurs ont utilisé la musique pour leurs films, Stanley Kubrick dans Shining ou Scorsese pour Shutter Island. Musique contemporaine plus ou moins sombre, comme ici le concertino pour trompette. Couronné de très nombreuses fois, Penderecki est mort ce matin à Cracovie. Il avait 86 ans.